initiation à la musique tunisienne.
La conception de rythme en musique arabe découle de deux notions différentes qui se complètent. La notion de mesure des durées des sons et des silences ou vides qui les séparent, la notion d'accent réparti dans un ordre donné à des distances de durée déterminées.
La notion de mesure et d'ordre dans la répartition des durées n'est pas particulière à la musique. Elle est aussi à la base de la prosodie, et les Arabes ont poussé très loin la réglementation de cet art. Leur système de métrique prosodique ne comporte pas moins de 16 mètres, sans compter les variantes soumises elles aussi à des règles précises. La prosodie arabe ne considère cependant que la valeur quantitative des syllabes, sans tenir compte d'aucune accentuation.
L'accentuation constitue donc pour les Arabes la caractéristique principale du rythme musical, celle qui le distingue de la métrique prosodique et qui constitue sa nature propre et qui lui donne une apparence différente.
En adoptant l'accentuation dans la mesure musicale, les Arabes ont consacré sa séparation de la mesure prosodique. Cette réforme introduite dans le chant arabe dès la fin du 7e siècle, au dire des chroniqueurs, la marqua de l'empreinte qu'il porte encore aujourd'hui.
Dès leur apparition dans le chant arabe, les accents rythmiques étaient appelés naqarat, et leur action sur la mélodie qu'ils animent de leurs pulsations était appelée iqa'. Le terme iqa' a servi à tous les anciens auteurs arabes pour exprimer la notion de rythme, à la place de celui de wazn ou mesure, désormais réservé pour exprimer la notion de métrique prosodique. N'est-elle pas frappante la ressemblance du terme iqa' avec le terme ictus, si couramment employé de nos jours en Europe en matière de versification et de musique instrumentale, et cela d'autant plus que les deux termes expriment l'idée de coup ou choc?
Pour les anciens auteurs arabes, les temps musicaux sont des nakarat, des coups, parce qu'ils sont marqués, délimités par des percussions exécutées sur des instruments appropriés ou simplement pensés par le chanteur ou l'instrumentiste. Ces percussions ou accents correspondent toujours à un accroissement d'intensité des sons de la mélodie avec lesquels ils coïncident. Les percussions étaient qualifiées de lourdes ou de légères selon leur durée longue ou courte. Les musiciens arabes des temps modernes poussent plus loin encore la discrimination entre les coups ou percussions du rythme. Ils en distinguent de forts et de faibles. Aux accents forts, ils attribuent le nom de toum ou doum, qui ne signifient rien en eux-mêmes et sont de simples onomatopées exprimant l'idée d'un coup mat et sourd. Les accents faibles sont appelés tek, soit une autre onomatopée exprimant l'idée d'un coup clair et dur.
À ces deux battements types, il faut ajouter le demi-doum appelé me et le demi-tek appelé ke. Il faut aussi ajouter la qafla ou fermeture, composée d'un dom et de deux mais superposés, c'est-à-dire produits en même temps. Elle sert à annoncer la conclusion de la période lorsqu'elle est par trop longue. À ces nuances d'intensité, il faut encore ajouter le tara'id ou roulement, succession de battements rapides fractionnant le temps en des instants très courts. Ces accroissements et abaissements dosés de l'intensité des naqarat ou battements constituent en eux-mêmes une sorte de musique entièrement faite de pulsations.
La succession de ces accents au relief inégal peut être considérée comme une transposition dans le temps d'une ligne qui s'étendrait dans l'espace et qui comporterait des nœuds de différentes grosseurs. Sur le fil continu de cette guirlande de pulsations dont elle épouse le relief, la mélodie se poursuit vivante et animée. Les battements ou accents sont d'autre part soumis à une périodicité rigoureuse. C'est là un principe fondamental de la rythmique arabe qui la régit depuis son apparition dans la musique artistique à la fin du 7e siècle et dont elle ne s'est jamais départie depuis. Une même série de battements forts et faibles se renouvelant périodiquement et sans interruption, avec les mêmes nuances d'intensité, le même ordre de succession et avec les mêmes durées, tel est le rythme en musique arabe.
toutes les mélodies rythmées doivent se dérouler suivant une telle discipline. Elles ne diffèrent entre elles que par la modalité de cette discipline, c'est-à-dire par l'ampleur de la période et la formule de son accentuation. La période rythmique est appelée daur, cycle, ou deir, cercle. Chaque type de période, chaque rythme particulier, est appelé asl, racine ou type. Chaque durée s'appelle zaman ou temps. Chaque période est mesurée par un zaman, temps, et aussi chaque battement.
Parmi les battements contenus dans la période d'un rythme, il en est auquel le rythme doit sa physionomie propre et qui le distingue d'un autre rythme. Ces battements indispensables sont dits usul, c'est-à-dire fondamentaux, pour les distinguer des autres, d'importance secondaire que l'on introduit généralement à l'intérieur de la période comme fioriture.
Les accents principaux, dont le plus important est celui qui marque le début de la période, déterminent dans cette dernière des compartiments appelés ajza ou membres. Ces membres, semblables aux mesures de la musique européenne, ne sont cependant pas nécessairement de durée égale. Ils ne sont d'autre part jamais tous remplis de battements de la même manière. Chaque mesure constitue une cellule rythmique indépendante. C'est leur assemblage qui donne au rythme son aspect spécifique qu'il doit garder tout le long de la même composition mélodique, le même chant ou la même pièce instrumentale.
La conception de la mesure est donc différente en musique arabe et en musique européenne. L'égalité des mesures en durée n'est pas obligatoire en musique arabe et l'uniformité de leur contenu quand elles sont d'égale durée est généralement évitée. Un autre point de distinction entre les deux conceptions réside dans le fait que la mesure ne débute pas nécessairement en rythmique arabe par un accent fort. C'est pour cette raison que certains rythmes arabes semblent pour une oreille européenne en conflit flagrant avec le sens de la mesure. En musique européenne, les mesures, toutes de même durée au cours d'une même mélodie et découpées selon le même modèle pour chaque durée, ne constituent en réalité qu'un cadre limitant de façon généralement schématique la ligne du rythme. En musique arabe, par contre, les mesures sont susceptibles d'un assez grand nombre de transformations dans leur contexture interne, ce qui fait qu'elles constituent en elles-mêmes, chaque fois, les éléments constitutifs d'un rythme.
L'ordre de grandeur des mesures est évalué par rapport à un temps étalon qui correspond à la plus courte durée des battements de la période. Ce temps premier, dont la conception rappelle celle du chronos protos de la rythmique grecque ancienne, n'a qu'une valeur relative. Sa valeur chronométrique absolue dépend de la composition musicale en cours d'exécution et autrement dit, de la vitesse du mouvement de son exécution. Les durées des mesures sont des multiples de ce temps, chacune le contient un nombre entier de fois.
Chaque type de rythme arabe a en principe son mouvement propre, fixé approximativement par la coutume, en l'absence de tout instrument de mesure, comme le métronome européen, on ne peut accélérer ou ralentir ce mouvement que dans une certaine limite. Une fois ce mouvement choisi, la durée du temps étalon se trouve de ce fait déterminée et doit rester immuable jusqu'à la fin de la phase mélodique soumise à ce mouvement.
Les temps premiers renfermés dans une mesure sont en nombre pair ou impair. Les mesures à temps pair sont de deux sortes. Premièrement, les mesures binaires dont le nombre de temps se réduit à 2 par un ou plusieurs dédoublements, comme les mesures à 2, 4, 8 temps. Deuxièmement, les mesures ternaires dont le nombre de temps se réduit à 3 par le même processus, comme les mesures à 3, 6 et 12 temps. Les mesures binaires sont dites simples, juz basit. Les mesures ternaires sont dites boiteuses, juz arj. À cause du nombre impair de leurs éléments binaires ou simples qui donnent une impression d'asymétrie et de manque d'aplomb. Quant aux mesures à temps impair, elles sont considérées comme composées d'éléments binaires et ternaires combinés, comme les mesures à 5, 7, 9, 10 temps. Elles sont dites, elles aussi, claudiquantes. De par l'irrégularité de leur allure, les mesures à temps impair, autres que les ternaires, sembleraient étranges pour plus d'une oreille européenne. Elle constitue pourtant pour les orientaux l'un des plus grands charmes de leur art.
Les combinaisons possibles de mesures de différentes durées, susceptibles chacune de plusieurs formes d'accentuation, sont en principe en nombre illimité. La seule restriction à laquelle doit obéir le compositeur, en dehors des exigences de l'esthétique et du bon goût, était la nécessité où il se trouvait de borner l'ampleur de la période rythmique aux limites de l'unité prosodique du poème à mettre en musique. Le vers classique arabe, à deux hémistiches plus ou moins égaux, de 4 ou 6 pieds chacun, ou encore la moitié seulement d'un mètre, telles étaient les limites auxquelles atteignaient les périodes lors de l'apparition de la rythmique musicale chez les Arabes.
Avec l'apparition vers la fin du IXe siècle du taushir, ou poème strophique, et son expansion au cours des siècles ultérieurs, les faiseurs de rythme eurent l'occasion de donner libre cours à leur imagination. Au lieu de se cantonner dans les limites de chacun des vers courts dont se compose la strophe, ils étendirent la période de certains de leurs rythmes à l'ensemble de la strophe. Des rythmes à très longue période furent ainsi créés, dont quelques-uns alignaient des mesures dont la valeur totale des temps dépassait la centaine de noirs de notre notation musicale moderne.
Le taushir étant devenu la forme la plus importante du chant arabe, la création de rythmes à longue période, toujours nouveaux, était devenue la passion des compositeurs désireux de paraître. Certaines de ces formules rythmiques, particulièrement réussies, parvenaient à forcer l'admiration des musiciens qui les adoptaient et les mettaient à la mode. Ces formules durent alors ce que dure une mode, c'est-à-dire tout au plus la vie d'une génération, ou encore elles lui survivent et entrent dans le domaine de la tradition. Le nombre des rythmes traditionnels était au commencement de ce siècle si élevé qu'aucun musicien ne parvenait à en retenir toutes les formules de mémoire. Chaque musicien se contentait d'en apprendre quelques-unes, au hasard des occasions, et le degré de son savoir se mesurait à l'importance de son érudition. Les spécialistes de la batterie, joueurs de tar ou de narrat, ne savent plus aujourd'hui jouer les rythmes à longue période, soit par oubli du processus faute d'entraînement s'ils sont d'un certain âge, soit qu'ils n'en aient jamais appris la technique quand il s'agit de jeunes. S'il arrive aujourd'hui à une formation de musiciens de jouer un programme de musique classique comprenant des morceaux composés sur des rythmes à longue période et à l'accentuation quelque peu compliquée, les préposés à la batterie se contentent en général de jouer en accompagnement rudimentaire et approchant. Ils choisissent pour cela un motif rythmique de l'étendue d'une mesure binaire ou ternaire ordinaire. Répété un certain nombre de fois, avec peu ou guère de variations, ce motif finit par répétition à correspondre à la période du rythme original de la mélodie classique que l'on joue. Il suffit d'en reproduire, sinon l'accentuation exacte, du moins la durée totale du temps.
Des musiciens non initiés aux règles particulières de l'art traditionnel de leur pays ont adopté par commodité d'ordre pratique la notation européenne pour transcrire leur musique. Non prévenus des conséquences de cette initiative, ils n'ont pas pensé à apporter à cette notation des modifications et des compléments nécessaires pour la rendre apte à reproduire les particularités essentielles de cette musique avec le plus de fidélité. Cette insouciance contribua pour beaucoup à ébranler les assises du système rythmique de la musique arabe. Le plus grand préjudice subi par ce système a été apporté à l'ordonnancement des accents par l'emploi systématique de la barre de mesure et par l'obligation à laquelle on se croyait astreint de lui faire correspondre un accent fort. Cette barre de mesure n'a-t-elle pas déjà modifié l'aspect de la rythmique européenne dès le XVIIe siècle ?
Seuls les rythmes à période irrationnelle, c'est-à-dire comportant un nombre impair de temps, relativement court, ont résisté grâce à cette anomalie à ce travail d'amenuisement, les mesures binaires ou ternaires n'ayant pu arriver à les réduire à leur cadre rigide sans leur faire perdre une partie de leur durée. Tous les autres rythmes nécessitant une exécution de longue haleine et une mémoire exercée à en retenir les longues formules, toutes ces guirlandes d'accents soigneusement agencées ont été transformées par la barre de mesure de la notation européenne en mesure binaire ou ternaire ordinaire, sans cachet spécial.
Ce travail spécial de simplification, encore inachevé en ce qui touche la rythmique traditionnelle de la musique classique des pays arabes d'Orient, est depuis longtemps déjà accompli pour la musique classique des pays du Maghreb arabe. Cette musique plusieurs fois centenaire, qui, implantée dans ce pays depuis la Reconquista castillane au XIVe siècle, s'y est maintenue jusqu'à nos jours, repliée sur elle-même, ne vivant que du souvenir de sa splendeur passée.
jusqu'au début de ce siècle, l'orchestre classique tunisien ne se composait que de deux instruments chantants, tous deux à cordes interceptées. L'un, à cordes pincées avec un plectre, est le oud, ou luth. L'autre, à cordes frottées avec un archet, c'est le rebeb, nom qui rappelle le rebec des ménestrels de l'Europe occidentale du Moyen-Âge.
Le rebeb, au jeu fort difficile et qui exigeait un long entraînement et une habileté de virtuose, commença à se faire rare dès le début de ce siècle et l'usage s'établit de le remplacer par le violon européen à la sonorité plus riche et jugé plus apte à reproduire fidèlement et avec aisance les nuances artificielles si délicates dont les recettes avaient été déterminées par le jeu du luth.
Depuis cette époque également, commencèrent à figurer dans les orchestres de musique classique deux nouveaux instruments, le naï, longue flûte de roseau sans hanche, et le kanoun, qui est une sitar. Ces deux instruments chantants, importés de Turquie par l'intermédiaire de la Syrie et de l'Égypte, sont devenus aujourd'hui d'un emploi quasi obligatoire.
Enfin, plus récemment, furent introduits le violoncelle, la basse et la contrebasse européens pour donner à la mélodie un fond sonore avantageux et plus de volume au son.
Mais cette émission sera consacrée au luth, sur lequel il y a beaucoup à dire. On a tendance à s'étonner de voir figurer encore le luth, cet ancêtre, dans les orchestres arabes. On le voit même dans les grandes formations modernes, qui ont tant d'exécutants et les instruments européens les plus perfectionnés. Le luth continue à guider les ensembles avec la même compétence et la même maîtrise qu'autrefois, quand il était seul à guider le chant, seul employé par unité ou en nombre dans la composition des orchestres.
Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Cet instrument a façonné par son doigté le chant des Arabes à tel point que leur gamme et leur mode mélodique en ont gardé une empreinte indélébile, un cachet qu'on ne saurait effacer sans faire perdre à leur musique sa valeur si spéciale.
Le luth arabe s'est amélioré certainement dans sa facture, grâce aux divers perfectionnements acquis au cours des siècles dans l'outillage et la technique du travail d'ébénisterie. Sa constitution et son aspect ont profité de la plus grande variété de bois précieux et de colles fortes à la disposition des luthiers modernes.
Les cordes montées sur l'instrument sont devenues de meilleure qualité pour n'être plus un produit artisanal, mais faites dans des usines spécialisées employant une technique et des matières nouvelles. Mais le luth n'a pas perdu pour cela sa physionomie et sa silhouette originale, et la technique de son jeu n'a subi aucun changement.
C'est que l'instrument a atteint depuis si longtemps un tel degré de perfection pour le rôle auquel il est destiné qu'on ne saurait apporter le moindre changement dans sa constitution sans risquer de lui faire perdre ses caractéristiques principales. Une qualité de timbre adéquate qui s'adapte si bien à la voix qu'il renforce sans risque de la couvrir. Et aussi la possibilité de produire sans peine les plus subtiles différences de ton sans besoin d'un grand entraînement.
Thank you. Le luth a quatre éléments essentiels. Premièrement, la caisse de résonance. Deuxièmement, le manche. Troisièmement, le chevillé. Quatrièmement, la monture de corde. La caisse de résonance est appelée cassa, du nom de l'ustensile creux et pansu qui sert généralement de plat, dont il rappelle en effet la forme. Cette caisse est comme une poire sectionnée longitudinalement au tiers environ de sa largeur. Ses dimensions variables sont en général de 55 à 60 cm de longueur et 35 à 40 cm de largeur dans son plus grand diamètre. Cette boîte est faite de minces lames de bois précieux, dures, aux grains fins et susceptibles d'acquérir un beau poli. Découpées en fuseaux, ces éclisses ont été plaquées sur une forme et maintenues côte à côte avec des bandes de papier solide collées en dessous en couvre-joint. Les éclisses sont soit de couleur uniforme, soit de deux couleurs alternées. Les couleurs le plus couramment choisies sont le noir d'ébène, l'acajou et le blond, avec variété de tons.
Le plateau, appelé wijh ou face, est en bois léger, au grain très fin. Il comporte au centre un motif d'arabesque en rosace, de 15 cm de diamètre environ. Cet espace ajouré fait office d'ouïe. Les pleins de la rosace ajourée, dite shamsiya ou soleil, sont couverts de nacre, d'ivoire, d'ébène ou d'écaille. À la base du luth, à peu de distance du bord du plateau, se trouve le tire-corde ou cordier, appelé musht ou peigne. Il est percé de petits trous disposés par paires où les cordes sont attachées chacune par un nœud. Entre le cordier et la rosace, faisant office d'ouïe, se trouve en général un plaquage de bois foncé, de cuir ou d'écaille, en forme de rectangle ou de toute autre figure oblongue formée de courbes et de contre-courbes en ligne fermée. Son rôle est de protéger le bois fin du plateau contre les coups du plectre qui risquent à la longue de les rafler. Ce plaquage de protection s'appelle araqm ou marque.
Le manche, appelé saad, bras ou hank, cou et court. Long de 20 cm environ, il a la forme d'un demi-cylindre, ou plus exactement celle d'un demi-cône tronqué, dont les côtés sont très proches de la verticale. Il mesure en effet de 6 à 7 cm de largeur. À la base, au point d'intersection avec le côté droit de la caisse de résonance, où il est inséré, et de 5 à 6 cm en haut, au sommet de l'angle qu'il forme avec la chevillé. Le manche est en général couvert, sur sa face le long de laquelle passent les cordes, par un plaquage de bois sombre, ou d'incrustations de nacre et d'écailles, ou encore de motifs d'arabesques découpés dans de l'ébène et de l'ivoire, et rappelant le décor de la rosace du plateau.
Sur le manche du luth, les anciens musiciens arabes attachaient des ligatures, qu'ils appelaient des sétines, pour marquer les points où les cordes devaient être interceptées. Chacune de ces ligatures portait un nom, celui du doigt destiné à la toucher. La dernière, servie par l'auriculaire, se plaçait au quart de la distance séparant le cordier du ciguier. Celle de l'index se plaçait au neuvième de cette même distance. Et celle de l'annulaire au neuvième de la distance du cordier à la ligature de l'index. Ces trois ligatures déterminaient sur chacune des cordes un tétracorde pythagorique, formé de deux tons majeurs et d'un demi-ton mineur. Leur position était fixe et n'avait jamais donné lieu à une contestation.
Il n'en était pas de même pour la ligature servie par le médius. Elle avait donné lieu pendant des siècles à de longues controverses au sujet de la place exacte qui devait lui être assignée. Il s'agissait de décider si elle devait marquer soit la limite de la tierce mineure, soit celle d'une tierce neutre, plus grande que la mineure et plus petite que la majeure, d'à peu près un quart de ton. On avait fini par accepter les deux positions et leur reconnaître la même importance. Aujourd'hui, l'usage s'est perdu de doter le manche du luth de telle ligature. La tierce neutre est depuis si longtemps implantée dans la gamme arabe et l'oreille des musiciens en est si pénétrée qu'elle leur suffit à retrouver sur les cordes le point exact qui reproduit ce degré artificiel.
Le chevillé, maintenant. Il porte dans les pays arabes d'Orient le nom turc de banjak. C'est une pièce de bois de 15 à 17 cm de long, en forme de pyramide carrée, allongée et tronquée, et dont l'une des faces est perpendiculaire à la base. Insérée par la base au manche, dans une position inclinée vers l'arrière, elle forme avec lui un angle de 120 à 130 degrés et se termine par un enflement façonné en forme de colimaçon ou ayant un tout autre profil décoratif. Une large et profonde rainure traverse la pièce dans le sens de la longueur jusqu'à l'enflement décoratif. Les chevilles traversent chacune les deux parois de cette rainure par des trous se faisant vis-à-vis. Les têtes des chevilles, en forme de disque, sont placées alternativement d'un côté et de l'autre du chevillé. Pour les manœuvrer, l'exécutant les tient entre le pouce et l'index. Entre le chevillé et le manche, sur la ligne de l'insertion de l'un sur l'autre, est fixé le ciguier. Il est fait d'une pièce d'os ou d'ivoire. Sur son arête arrondie, passent les cordes pour aller s'enrouler chacune sur celle des chevilles, qui traverse la rainure qui lui est destinée.
Pour augmenter le volume des sons tirés de l'instrument, les musiciens arabes de nos jours dotent leur luth de cordes jumelées. La monture est de cinq paires, produisant chacune le même son. Elles sont toutes en boyaux de chèvre ou de mouton. La première paire, celle qui produit le son le plus grave, est parfois faite d'un filet de soie recouvert d'un enroulement de fil métallique. Les cordes sont accordées à la carte, chaque paire produisant le son à la carte de celui de la paire précédente, sauf la première paire, dont le son n'est qu'à un intervalle de ton de celui de la paire suivante, ce qui donne l'accord suivant, sol, la, ré, sol, do. Pour agiter les cordes, afin de leur faire produire des sons, on les pince à l'aide de la main droite avec un plectre. Le plectre est appelé richa ou plume, parce qu'il est en général fait d'une plume flexible, de préférence d'une plume d'aigle. De nos jours, on se sert d'une mince baguette de matière plastique. L'exécutant passe le plectre entre l'index et le médius et le retient par une pression du pouce sur l'index. Parfois, cependant, la plume tenue par le pouce et l'index passe sous la main pour ressortir au-delà de l'auriculaire.
Thank you.
jouer de l'instrument, l'exécutant le place sur son genou droit, la face, le plateau, en avant, et le dos, la partie arrondie, contre sa poitrine. Il donne ensuite aux manches une position légèrement inclinée vers le bas et l'empoigne par la main gauche, le pouce en haut et les autres doigts arrondis pour atteindre les cordes. Puis, le bras droit arrondi sur la base de l'instrument, il pince les cordes, un peu au-delà du cordier, le plectre tenu déjà comme indiqué.
Quoique les luths en usage aujourd'hui dans les divers pays arabes et les autres contrées du Proche et Moyen-Orient se ressemblent tous par leur forme, les lignes générales de leur silhouette, la conception et la nature de leurs éléments, on en distingue cependant deux types bien caractéristiques pour un œil et une oreille avertie. Premièrement, le type oriental, répandu dans tout le monde arabe. Sa caisse de résonance est relativement plus large et plus bombée, et son manche plus court. Il est en général monté de 5 cordes et parfois 6. Toutes ces cordes sont jumelées et toutes accordées à la carte, sauf la première, qui est généralement simple et toujours d'un ton seulement plus grave que la suivante.
Le deuxième type de luth est le type maghrébin. Son corps est resserré par rapport à celui du luth oriental et son manche sensiblement plus long. Sa constitution est d'autre part plus robuste. Son plateau et les éclisses, formant la partie bombée de son corps, sont en effet découpés dans des plaques de bois assez épaisses. Il semble avoir été conçu pour un jeu plus violent et l'exécution en plein air. La longueur de son manche permet d'avancer la main au-delà du quart des cordes avec le moins de risque de toucher le corps de l'instrument.
Le luth maghrébin est toujours monté de 4 cordes jumelées. Son accord est loin d'être aussi simple, aussi régulier que celui du luth oriental. L'accord, généralement employé par les artistes tunisiens, est le suivant. Les cordes étant comptées de haut en bas, la première corde, appelée vil, produit le son le plus grave, le son directeur. Ce son peut être assimilé au ré de la notation européenne. La deuxième corde produit un son à l'octave supérieure de celui de la première, ré 2. La troisième corde produit un son à la quinte inférieure de celui de la deuxième, sol. La quatrième corde produit le son à la quinte supérieure de celui de la troisième, do.
Le luth maghrébin est appelé kouitre au Maroc, d'un nom qui rappelle celui de guitare. En Tunisie, il est désigné sous la dénomination de oud arbi ou luth arabe, par opposition aux luths de type oriental, qualifiés de masri ou égyptien. L'Égypte étant géographiquement le premier pays oriental en contact avec la Tunisie. Les Maghrébins attribuent volontiers à leur luth une origine andalouse, autrement dit hispano-arabe. Avec leur beb, ils symbolisent pour eux la musique héritée de l'Espagne musulmane qu'ils chérissent et entourent d'une sorte de vénération. Jouée sur d'autres instruments, cette musique perd pour eux un peu de son charme.
Le luth tunisien est d'un jeu relativement difficile. Il exige un long entraînement et une habileté de virtuose. Seuls les professionnels arrivent à en jouer proprement. Aussi est-il de plus en plus délaissé depuis le commencement de ce siècle et remplacé par le luth oriental, au jeu plus facile grâce à son accord régulier qui n'oblige guère le joueur à démancher.